Comme tout bon locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose priorité santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des mots qui se répètent, s'étirent ou s'arrêtent de manière inattendue. Une phrase qui, au lieu de couler, se hache, se coupe. Chacun d'entre nous, à un jour ou l'autre, était confronté au bégaiement. Le sien, celui de quelqu'un dans son entourage, d'un voisin, d'un camarade de classe, car c'est souvent pendant l'enfance que le bégaiement apparaît. Ce problème peut sembler anodin lorsque l'on n'est pas concerné à titre personnel, mais ce trouble de la communication peut véritablement altérer la qualité de la vie, les relations, perturber la scolarité, créer un malaise, la peur d'échouer, contribuer à isoler les individus, même si ce n'est pas systématique. Pour reprendre confiance, des prises en charge existent, un travail qui passe par l'action combinée du thérapeute, l'orthophoniste, par l'implication de l'entourage familial, amical, éducatif, une rééducation qui doit être amorcée de la façon la plus précoce possible, trouver des réponses adaptées, limiter le stress, identifier les situations qui favorisent la tension verbale, une récupération qui passe aussi par la pleine compréhension du problème. Comprendre le bégaiement, trouver des conseils adaptés aux différents types de situations. Avec nous en studio, Caroline Garry-Dutoit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste à Houille, en région parisienne, membre de l'association Parole Bégaiement. Et tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Cameroun Claire Nkoué-Bézina, orthophoniste qui exerce à Yaoundé. Et en fin d'émission, on va parler du forum régional sur l'expérience de soins en Afrique qui se tient jusqu'à mercredi à Dakar. Quelles attentes, quels besoins pour améliorer la santé maternelle et néonatale? On va retrouver le docteur Jean-Paul Dossou, chercheur au centre de recherche en reproduction humaine et en démographie à Cotonou, en Bénin. Au Bénin, il participe à ce forum.
Priorité santé sur RFI.
Les troubles de la communication, Caroline Garry-Dutoit, il y a de nombreuses manières de bégayer. Hein. Toutes les personnes concernées ne bégayent pas de la même manière. Si vous le voulez bien, pour commencer, petite définition pour ne pas confondre trouble de la parole et trouble du langage. En fait, lorsqu'on parle du bégaiement, il arrive de confondre.
Oui, en effet, le bégaiement, c'est même un trouble de la fluence de la parole. C'est-à-dire que c'est un trouble de l'écoulement verbal qui perturbe le rythme et le débit de la parole.
Ça veut dire que la personne a toute la capacité de parler comme tout à chacun, mais un problème arrive au niveau justement de ce débit.
Tout à fait. La personne peut avoir un... Chez les enfants, par exemple, il y a des enfants qui bégayent qui ont un excellent niveau de langage ou qui ont un retard de langage. Tout est possible puisque ce n'est pas lié. La personne a du vocabulaire, peut construire ses phrases normalement, mais au moment de la prise de parole, au moment de l'échange, un excès de tension, de crispation vient empêcher les mots de sortir.
Ce n'est pas un problème de compétence.
Non, pas du tout.
Alors Caroline Garry-Dutoit, le bégaiement, c'est finalement quelque chose d'assez commun, d'assez fréquent. Vous avez déjà dit le mot enfance parce que dans la plupart des cas, c'est à ce moment de la vie que ça apparaît.
En effet, ça apparaît dans la grande majorité des cas entre 2 et 5 ans. Pour environ 80% des gens, ça apparaît avant l'âge de 7 ans.
Et les garçons sont davantage touchés que les filles.
Oui.
Est-ce qu'on l'explique?
Je crois que c'est le cas dans l'essentiel des troubles du langage, de la parole et de la communication. Je ne sais pas.
Il n'y a pas d'explication, on n'a pas étudié les relations, par exemple, lors de l'acquisition du langage, les interactions mère-enfant pour essayer de comprendre ce qui peut bloquer ou ce qui peut faire justement que la proportion de garçons concernés est beaucoup plus importante.
Il y a eu des hypothèses, mais à ma connaissance, pour l'instant, on ne sait pas.
Alors du côté des facteurs, parce que quand il y a un problème, on cherche toujours à l'expliquer, est-ce qu'on connaît véritablement aujourd'hui les causes du bégaiement?
On sait que c'est multifactoriel. Les recherches actuelles orientent de plus en plus vers une base neurologique. C'est-à-dire que pour bégayer, il faut avoir le cerveau fait pour bégayer, il faut avoir le terrain favorable. Les recherches montrent qu'il y a des différences vraiment structurelles et même anatomiques dans le cerveau au niveau des aires du langage. Il y a également un facteur important qui est le facteur génétique. Quand quelqu'un bégaye dans la famille, on a beaucoup plus de risques de bégayer. Et ensuite, une fois qu'on a ce terrain, d'autres facteurs viennent intervenir, comme les facteurs environnementaux, psychologiques, linguistiques.
Et on parle souvent, justement, vous avez dit, ça apparaît souvent pendant l'enfance. Est-ce que justement, plus tôt on intervient, plus grandes sont les chances de... Est-ce qu'on dit d'abord récupérer ou de changer les choses, Caroline Garry-Dutoit ?
Alors oui, en effet. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour la majorité des enfants, la récupération est spontanée. Il y a beaucoup d'enfants qui, sans traitement, environ 3 enfants sur 4 vont récupérer spontanément. Et pour le quatrième, plus on intervient précocement, plus on, comment dire, plus la récupération va être complète et rapide. Et également, moins l'enfant a de risques de développer des attitudes réactionnelles, de peur, de repli sur soi, d'évitement, ou tout ce qui peut découler du bégaiement.
Alors, quand on dit prise en charge précoce, c'est à quel âge ?
À n'importe quel âge, ça peut être à 2 ans.
Ça veut dire que dès qu'on sent qu'il y a un petit... Dès que ça bute, on peut aller voir, quand on a la possibilité, une orthophoniste pour lui demander conseil, ou on attend, par exemple, qu'un professionnel de l'éducation, en crèche ou à l'école, nous dise peut-être qu'il faut, là, aller voir un orthophoniste.
Alors moi, j'incite vraiment les parents à se faire confiance, puisqu'effectivement, tous les enfants ont des accidents de parole ordinaires, des hésitations quand ils apprennent à parler. Mais en général, les parents repèrent très bien qu'à l'oreille, il y a quelque chose de différent quand leur enfant bégaye. Donc, au moindre doute, ils peuvent consulter. Il y a une récupération spontanée qui est importante, donc on peut se permettre de laisser passer quelques mois, d'observer ce qui se passe. Mais s'il y a des antécédents dans la famille, si le bégaiement empire, si les parents sont inquiets, ou que l'enfant semble gêné, autant consulter dès que possible.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des traits communs du démarrage ? Est-ce qu'il y a des moments où on va sentir que ça ne va pas ? Est-ce que c'est quand l'enfant commence à construire des phrases, quand le langage est installé un petit peu vers 3-4 ans, ou ça dépend des individus complètement ?
Ça dépend des individus, mais effectivement, c'est le cas le plus fréquent et la survenue du bégaiement au moment du développement du langage. C'est pour ça que ça apparaît essentiellement entre 2 et 5 ans.
Alors tout à l'heure avec les auditeurs, on va bien sûr parler des conseils, hein, des attitudes à adopter, mais j'aimerais qu'on prenne un petit peu le problème à l'envers. On se trompe souvent face à une personne qui bégaye, on n'a pas forcément les bonnes attitudes. Qu'est-ce qui est mauvais quand on ne bégaye pas soi-même, mais quelle attitude éviter à tout prix pour ne pas mettre l'autre dans l'embarras quand on échange avec lui ?
L'essentiel, c'est de se comporter comme un interlocuteur actif et à l'écoute, c'est-à-dire de chercher avant tout à savoir ce que la personne a à dire. On peut éviter l'attitude de fausse indifférence qui consistera à faire comme s'il n'y avait rien. Le mieux est peut-être encore de discuter avec la personne si ça s'y prête pour savoir ce qui l'aide le plus. Ce qui est à éviter, évidemment, c'est d'en rire. De se moquer.
Ça peut paraître extrême, mais c'est fréquent.
Mais ça arrive régulièrement. Ce qui est à éviter, c'est de parler à la place de la personne, de lui donner des conseils, car tout conseil, en fait, amène à, même si ce sont des conseils bienveillants, comme ralentis, va moins vite, je t'écoute, les conseils amènent à un excès d'effort, et plus on fait d'effort, plus on bloque.
Et on explique cette tension, on explique au niveau des émotions, justement, des situations qui sont propices à cette situation qui va amener le bégaiement ?
Alors, le bégaiement est fluctuant, donc selon les personnes, c'est très différent. Il va se produire plus ou moins dans différentes situations. Effectivement, les émotions sont fréquemment associées à une hausse du bégaiement, pour beaucoup de gens. Mais, encore une fois, ce n'est pas systématique.
Et c'est quelque chose sur lequel vous revenez en travail, en consultation, en tant qu'orthophoniste, justement, ces émotions. Qu'est-ce que ça suscite quand je bloque ? Qu'est-ce que ça suscite quand on se moque de moi ? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle ?
Ah oui, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, effectivement, les émotions qui découlent du bégaiement. Parce que la réaction que l'on va avoir au moment du blocage, les émotions que ça va engendrer vont beaucoup jouer sur la persistance du bégaiement. Le bégaiement est on le décrit souvent comme un iceberg, avec la partie émergée, qui est tout ce que les gens peuvent voir ou entendre, les blocages, les hésitations, et puis la partie immergée, qui est tout ce que la personne ressent, tout ce que ça lui fait à l'intérieur. Et si on travaille que sur ce qui se voit, on n'ira pas du tout aussi loin.
Et bien, on va tout de suite donner la parole à nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Premier auditeur qui est en ligne du Burkina Faso, c'est Mahomet. Mahomet, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute,
oui,
allez-y.
Tout le monde.
Bonjour.
D'accord. Bien, c'était pour faire une intervention concernant le bégaiement.
Mm-hmm.
Moi-même, à mon niveau. Je disais que, bon, j'ai su que je bégaye depuis l'école primaire. Et bon, la chose s'est aggravée quand je suis arrivé peut-être au niveau du collège. Et là-bas, quand je suis en classe et le professeur pose des questions comme ça, bon, peut-être parce que je me rappelle, il y a une fois, lors d'une réponse à une question comme ça, j'ai beaucoup bégayé et après, toute la classe a commencé à rire. Bon, ça dit, ça m'a frustré. Donc, et puis, bon, je n'arrive pas à prendre la parole au milieu des chants que je ne connais pas trop comme ça.
Encore aujourd'hui, Mahomet, vous n'arrivez pas à prendre la parole en public?
Bon, oui, bon, je peux dire que, bon, le fait que, bon, entre vous, à la télé depuis fort longtemps, bon, j'ai essayé de prendre mon souffle avant de pouvoir parler. Même à l'heure là, même, bon, je peux dire que ma voix tremble un peu, mais c'est pas trop comme ça.
Et pourtant, vous nous appelez aujourd'hui, vous êtes en train de nous parler. Moi, je suis pas du tout experte, hein. J'ai l'habitude d'échanger avec les auditeurs. Si vous ne m'aviez pas dit « je bégaye », je n'aurais jamais deviné que vous étiez touché par le bégaiement. Alors, comment ça se passe? Quand vous êtes au téléphone, ça se passe toujours bien?
Oui, et puis bon, en plus aussi, bon, la langue française. Quand je parle en français, bon, je bégaye allemand. Et quand je parle, c'est-à-dire dans notre langue, peut-être, bon, au Burkina Faso, on parle du djoula.
Mm-hmm.
Quand je parle du djoula avec mes amis, bon, je bégaye. Voilà.
Mais vous disiez tout à l'heure que ça avait apparu quand vous étiez à l'école. L'école, elle était enseignant en français ou en djoula?
L'école était enseignant en français. Le fait que, bon, vous... Allez, bon, je comprenais pas français, je comprenais pas la langue.
Mm-hmm.
Donc, voilà, vous savez qu'au CP1, on commence à faire les syllabations, et ainsi de suite. Voilà. Là-bas, bon, je peux dire ça a commencé un peu. Mais quand, bon, j'ai grandi, j'ai même cherché des conseils chez des gens, voilà, qui m'ont dit que non, avant de parler, il faut que je retienne un peu le souffle avant de parler. Sinon, je parle, bon, peut-être à une vitesse comme ça, je ne pourrais pas bien parler. Donc, on dit, bon, on doit ça. Tenir quand je me précipite pour parler.
Et ces conseils, vous les avez trouvés auprès de qui?
Et bon, un monsieur, lui aussi il bégayait, c'était un ancien. Voilà. Bon, je lui ai dit que bon, en tout cas, j'ai remarqué qu'il bégayait. Il m'a dit effectivement qu'il bégayait. Et puis bon, il m'a fait savoir que bon, lui, il arrive à se contrôler quand il retient un peu de souffle. Bon, moi aussi, bon, j'ai essayé de faire comme ça au fil du temps. Et puis bon, je peux dire, ça va. Mais c'est dans la langue française que je ne bégayais pas trop. Quand je parle djoula, bon, le bégaiement, ça vient trop.
Et quand vous parlez djoula, c'est par exemple avec vos amis, avec la famille, ça se passe plutôt bien? Ils réussissent à échanger avec vous sans vous bloquer complètement dans la conversation?
Voilà, parce que là-bas, bon, j'ai une confiance en moi. Et puis, bon, je me dis que, bon, comme ils savent déjà que je bégaye, donc je n'arrive pas et... Bon, je n'essaie pas à faire cacher mon bégaiement. C'est-à-dire, j'essaie de faire comme je veux, parce que je sais qu'ils savent déjà. Mais c'est quand maintenant je me retrouve au milieu des gens que je ne connais pas. Je me dis que bon, je vais essayer de contrôler le langage pour ne pas qu'ils sachent que je bégaye. Sans ce moi-même, bon, ça devient pire. C'est comme si je sais pas, peut-être c'est la peur, bon, peut-être de me trouver au milieu des gens, parler des gens que je ne connais pas trop.
Deux choses importantes hein, dans ce témoignage de Mahomet Caroline Garry-Dutoit. D'abord, faute de pouvoir trouver un thérapeute, un orthophoniste, il est allé voir un comparse, un collègue, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas quelqu'un de concerné qui avait des bons conseils à lui donner. Et puis l'autre chose, c'est qu'il dit que quand il est en situation nouvelle, c'est là où il se sent en danger.
Alors oui, tout à fait. Alors déjà, bravo. Bravo d'avoir cherché ses propres solutions et trouvé des moyens d'avancer. Je voudrais juste revenir sur quelque chose d'important qui va répondre à votre question. C'est cette idée que quand les gens savent qu'on bégaye, alors la pression diminue et on bégaye moins. Puisque le bégaiement se nourrit, la tension liée au bégaiement se nourrit de la pression qu'on peut se mettre aussi pour parler. Et ça, c'est une idée vraiment importante, parce que quand on se retrouve face à des gens nouveaux et qu'on a envie de cacher ce bégaiement, c'est là qu'on a le plus peur et c'est là qu'on a le plus de risques de se mettre à bégayer. Donc une première chose, c'est peut-être, à chaque fois que c'est possible, à chaque fois qu'on le peut, c'est de parler du bégaiement, d'expliquer, de dire que ça nous arrive de bégayer, pour déjà faire baisser la pression.
Transparence, et après comme ça on peut commencer l'échange et peut-être ne pas bégayer du tout.
En effet, et pour l'interlocuteur aussi, ça lui permet d'être moins surpris et d'avoir des réactions plus plus adapté, plus dans l'échange.
Malgré tout, un certain nombre de personnes qui bégayent ressentent, même si on l'a bien compris, il n'y a absolument pas lieu, ressentent une forme de honte à ce trouble.
Oui.
Alors justement, c'est aussi travailler sur ce sentiment.
Oui, tout à fait. Et le fait d'en parler, d'abord peut-être à des gens qu'on connaît, dans des situations où c'est accessible, et puis dans des situations de plus en plus difficiles, le fait d'en parler va faire fondre cette honte, va faire diminuer ces sentiments-là.
Mahomet, est-ce qu'il vous arrive justement, quand vous engagez une nouvelle conversation, de le dire à la personne qui est en face de vous ?
Dire à la personne que j'ai bégayé ?
Ouais.
Oui.
Bon, un peu, parce que bon, je me rappelle, actuellement je suis enseignant.
Mmh.
Et bien, comme on appelle, chez nous au Burkina, on dit, bon, si tu bégayes, bon, tu peux pas devenir un enfant quelque sorte.
Mmh.
Et quand on part pour des visites comme ça, bon, on nous donne la parole et on essaie de parler, bon. Mais quand je suis allé en parlant le français, bon, personne n'a compris que je bégayais en fait. C'est quand je suis en formation, c'est lors de la formation maintenant, j'ai croisé des gens aussi qui bégayaient tout comme moi. En ce moment même, je me suis donné, bon, comment on appelle ça, confiance-là. Mmh. Et bon, voilà, j'en ai parlé. Et ils m'ont dit que non, bon, il n'y a pas de problème parce qu'il y a plusieurs sortes de bégaiement. Parce qu'il y a des gens même qui n'arrivent même pas à prononcer, ne serait-ce qu'un seul mot, sans bégayer. Mais moi, je peux parler, bon, pratiquement, bon. Et je prends peut-être 10 minutes de parole sans bégayer dedans. Ou soit, si je veux bégayer, j'essaie un peu de camoufler le bégaiement.
Ben en tout cas, on vous remercie infiniment parce que en plus, justement, saluer votre courage aussi parce que vous êtes engagé vers l'enseignement avec ce problème. C'était déjà avoir une sacrée confiance en vous-même et en tout cas, bravo. On vous remercie beaucoup, hein, Mahomet. Merci pour ce témoignage très complet. Excellente journée au Burkina. On part pour la Côte d'Ivoire, Bingerville, avec Issiaka en ligne avec nous. Issiaka, bonjour.
Bonjour, les Caroline.
Bonjour.
Oui, on vous écoute, le Issiaka, allez-y.
Ce matin, mon intervention va à l'endroit de mon fils,
oui.
Et qui aura 2 ans le 15 novembre. La semaine dernière, sa mère et moi avons constaté qu'il répétait les syllabes en début de phrase. Et bien avant ça, il ne le faisait pas. Donc, votre émission tombe à point pour avoir quelques conseils et puis solutions aussi.
Et vous avez l'expérience justement de cet apprentissage des tout-petits parce que vous avez d'autres enfants ?
Oui, j'ai une fille qui a 5 ans.
Donc vous avez suivi forcément son apprentissage des premières années. Ce que nous dit Issiaka, c'est qu'on peut justement, on en parlait tout à l'heure, Caroline Garry-Dutoit, repérer de façon très précoce quand il y a un petit problème au démarrage.
Oui, tout à fait. Alors, ça dépend du niveau de langage de l'enfant. Pour bégayer avant 2 ans, en général, il faut déjà avoir un bon niveau de langage. On peut le repérer rapidement. Après, l'idée, c'est de faire la différence entre les hésitations ordinaires que peuvent avoir tous les enfants lors de l'apprentissage du langage et les disfluences vraiment qui sont du bégaiement. Ça va se sentir au niveau de la tension qui est mise ou du nombre de répétitions. Si on répète plus de 3 à 4 fois, en général, c'est du bégaiement.
Et Issiaka, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que, justement, quand vous entendez votre petit garçon qui bute un petit peu sur un mot, ça crée une certaine tension chez vous quand vous l'écoutez ?
Oui, bien sûr, parce que et même si les mots comme papa et maman,
mm-hmm.
ils répètent au moins 4 à 5 fois la première syllabe.
Mm-hmm.
Or, ce sont des mots que l'enfant prononce dès qu'il apprend à parler.
Mm-hmm.
Oh. Une précision aussi, c'est que mon fils a très vite parlé, à partir de 1 an, 3 mois déjà, il s'est mis à prononcer ses premières syllabes, ses premiers mots. Donc, c'est vrai qu'il n'articule pas correctement, mais il n'avait pas ce dysfonctionnement au niveau de la parole.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à Issiaka, Caroline Garry-Dutoit, justement, il doit continuer à écouter son enfant, attendre un petit peu, ou déjà envisager quelque chose, c'est tôt avant 2 ans?
C'est tôt. Ce que vous pouvez faire déjà, Issiaka, c'est rassurer votre enfant en expliquant que ça arrive à plein d'enfants, que ça s'appelle le bégaiement et que vous allez l'aider. L'important, c'est vraiment d'accompagner au moment où l'enfant répète, de pouvoir le regarder dans les yeux, se mettre à sa hauteur, accompagner ce langage pour qu'il force le moins possible, pour qu'il soit le moins possible dans la lutte. Ça, c'est déjà ce que vous pouvez faire en tant que parent. Éventuellement, poser une main sur son épaule pour apaiser ces moments de communication. Ensuite, effectivement, s'il n'y a pas d'antécédent dans la famille, il est probable que le bégaiement disparaisse de lui-même. Maintenant, si ça dure, si ça semble empirer, s'il lutte avec ses mots, alors c'est vraiment important de soit consulter un spécialiste et si ce n'est pas possible, de prendre des conseils pour pouvoir l'aider au mieux et intervenir vous-même précocement.
Et on peut d'ailleurs citer justement le site de votre association Parole Bégaiement où on va trouver en ligne et gratuitement, c'est important, des conseils pour justement savoir les procédures à faire pour essayer d'améliorer les choses par soi-même quand on n'a pas accès à un thérapeute.
Oui, tout à fait. Le site de l'association Parole Bégaiement, donc www.bégaiement.org, est vraiment une mine à ce sujet pour les parents, pour les adultes qui bégayent, pour les enfants, pour les adolescents. Il y en a vraiment pour tout le monde avec des conseils, les attitudes aidantes et même des vidéos pour savoir comment agir.
On mettra le lien sur le podcast de l'émission, bien sûr, comme d'habitude, quand on cite ce genre de référence. On vous remercie beaucoup, Issiaka, de votre appel de Côte d'Ivoire. On part pour le Mali tout de suite, pour Bamako. Nous avons Boubou en ligne. Boubou, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, rapprochez-vous un petit peu. Je sens que vous êtes loin, l'appel, votre voix est très 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 grave. C'est un petit peu sourd, on a envie vraiment de bien vous entendre, allez-y.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ça va maintenant?
Oui, très bien, allez-y.
Oui, je voulais vous faire part de mon état de bégaiement, parce que dès le jeune âge, j'ai appris à bégayer avec un grand frère du quartier, et comme il gesticulait en parlant, et c'est comme ça, c'est parti pour moi. Et arrivé à l'école primaire, je me sentais ridicule devant les camarades, s'il s'agissait de faire la lecture ou bien autre chose. Et ça m'a vraiment perturbé dans la vie scolaire. Et au fur et à mesure, avec l'âge, j'ai appris à prendre mon calme, j'ai appris à prendre du souffle, et j'ai vu qu'il y avait un peu d'amélioration. Et jusqu'à maintenant, je sens qu'il y a eu une très grande amélioration, parce que j'avais mis ça sur le truc de l'émotion, mais maintenant ça va. Voilà.
Vous contrôlez ça en régulant le rythme de votre parole, justement pour apporter le débit le plus calme possible, parce que quand on vous entend, on entend comme une douce vague qui nous parle et on n'a aucune coupure, on n'a en fait aucune trace de bégaiement.
Voilà, et c'est ce que j'essaie de faire, et je vois que ça marche aussi. Parce que chez nous, en Afrique, on a tendance d'avoir à appliquer la chicotte pour les gens qui bégayent. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'était pas la solution, puisque j'ai ma première fille qui vient d'avoir son baccalauréat, elle a 18 ans. Dès l'âge de 6-7 ans, elle avait commencé à bégayer. Et l'entourage essayer d'appliquer la chicotte, mais comme moi-même, j'avais été victime de la chose. À chaque fois qu'elle veut me parler, j'ai dit non, prends ton temps, calme-toi. C'est d'avoir essayé de la rassurer, de faire baisser l'émotion. Et au fur et à mesure, j'ai essayé d'expliquer ça à ses instituteurs, comment est-ce qu'il faut procéder avec elle. Et voilà, maintenant ça a beaucoup marché. Elle a eu son bac et puis bon, elle ne bégait pratiquement plus. Et son jeune frère aussi qui a 11 ans, il avait commencé aussi à bégayer. Et j'essaie aussi d'appliquer la même méthode et je vois que ça marche. Parce que le plus souvent chez nous en Afrique, on a tendance à accélérer la chose ou accentuer le bégaiement parce qu'on dit chaque fois que la personne veut parler avec une autre personne, quand elle bégaye, il faut la gifler, il faut la gronder. Mais j'ai vu que ce n'était pas la solution.
C'était totalement contre-productif. Justement, je vais me tourner vers Caroline Garry du Toit. Je ne sais pas si vous êtes familière de cette expression, la chicotte.
Non.
C'est un châtiment corporel. En général, ça se fait, on va dire, quand il y a un joli arbre dans la rue, on découpe une branche et ça sert à frapper le plus souvent les enfants. Voilà, c'est un châtiment corporel, une punition, on peut le dire, carrément ignoble pour quelqu'un qui bégaye, puisque ces châtiments sont totalement, non seulement contre-productif mais cruel et barbare. Donc voilà, et en tout cas, Boubou, ce qu'on entend, c'est que dans votre mode d'éducation, vous avez totalement renoncé à ce genre de choses et que ça marche. C'est plutôt l'écoute, la douceur et la tendresse qui marchent et non pas ce genre de pratique.
Voilà, c'est tout. Il faut essayer de vaincre les émotions. Et, mais ce qui est aussi paradoxal, quand je parle en français, je me sens beaucoup plus à l'aise que quand je parle djoula, parce que je trouve qu'en français, il y a trop de mots synonymes. Quand je me bloque sur un mot, tout de suite, là, je peux trouver son synonyme et puis bon, voilà, ça passe quoi. Mais en djoula, c'est autre chose. Voilà.
Caroline Garry du Toit, ce que dit Boubou aussi illustre ce dont on a parlé tout à l'heure, le caractère héréditaire dans certaines familles du bégaiement.
Oui, en effet, il y a une composante génétique qui est très importante.
Et c'est important aussi, justement, compte tenu de votre expérience, Boubou, d'appliquer à vos propres enfants ce qui n'a pas forcément été fait avec vous. Vous avez pleinement tiré les enseignements de votre expérience, justement, pour éviter de tomber dans des pièges par rapport à vos enfants et vous les aider dans cette voie-là.
Parce que même quand je discute avec les instituteurs, je leur dis, bon, comment est-ce qu'il faut corriger que le bégaiement, c'est pas le châtiment corporel, mais il faut les rassurer d'abord pour faire tomber l'émotion, les rassurer et les faire parler doucement. Et ensuite, ça marche. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui bégaye, et la première des choses, quand il veut forcer, il veut aller plus vite, j'ai dit non, prends ton temps, calme-toi, et vraiment, ça marche.
C'est un message à faire passer aux enseignants qui nous écoutent aussi, puisqu'ils peuvent être, bien sûr, dans leur exercice, être confrontés à cette rencontre avec des enfants qui ont un problème de bégaiement. Donc, important de leur dire, ce n'est pas par la force que ça va passer, mais c'est bien par l'écoute, l'échange et par la douceur. On vous remercie infiniment, hein, Boubou, pour ce témoignage très intéressant. Et très bonne journée à vous. À Bamako, au Mali, on prend un dernier auditeur du Burundi, de Bujumbura. Jean, avec nous. Bonjour, Jean.
Bonjour madame.
On vous écoute, allez-y.
C'est Jean Ali.
Allez-y.
Oui, moi aussi, bon, je suis bègue et ça m'arrive parfois de bégayer en pleine discussion avec mes amis, en classe. Mais je me surveille un peu en gardant un peu le souffle avant de parler. Et ensuite, j'évite la peur, mais aussi la colère. Alors, j'ai une question.
Allez-y, Jean.
Oui. Est-ce que c'est héréditaire? Car bon, quelques membres de ma famille maternelle sont aussi bégayés parfois. Les stratégies aussi que je peux prendre avant de bien parler.
Des conseils, besoin de conseils. Alors, sur la réponse, oui, sur l'hérédité, on va le redire, hein, Caroline Garry du Toit.
En effet, il existe le bégaiement est héréditaire, ce qui ne veut pas dire que tous les membres d'une même famille bégayent, mais il y a plus de risques de bégayer quand quelqu'un de la famille bégaye également.
Alors sur les stratégies, Jean a dit qu'il jouait, qu'il retenait son souffle. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller d'autre? Encore une fois, il y a des sites spécialisés, on en mettra un en lien avec cette émission. Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire comme ça, Jean, s'il veut améliorer un petit peu plus sa fluence, son débit, donner plus de régularité, qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Alors Jean, vous pouvez tout à fait vous entraîner un peu tous les jours, quotidiennement, à parler à un rythme qui vous convient, un débit un peu ralenti, avec beaucoup de pauses. L'idée étant de, lorsqu'il y a un blocage, plutôt que lutter, passer le plus en douceur possible. Et cet entraînement quotidien peut vraiment porter ses fruits. Vous pouvez le faire tout d'abord en lisant ou sur des situations de parole faciles, et puis progressivement, de plus en plus longtemps, et sur des situations de parole qui vous posent un peu plus de problèmes.
Et on en a eu une illustration tout à l'heure avec Boubou, hein, qui parlait doucement, mais c'était d'une fluidité incroyable. Ça passait absolument tout seul.
Tout à fait.
Et autre conseil peut-être
Autre conseil
Est-ce qu'on peut s'entraîner par exemple au téléphone ou dans des situations où on a moins de stress que dans la discussion les yeux dans les yeux?
Oui, alors le téléphone n'est pas forcément moins stressant, ça dépend vraiment des gens. Mais effectivement, l'idée, c'est de s'entraîner d'abord dans des situations qui entraînent peu de crainte, peu de peur, pour se désensibiliser en quelque sorte, et aller progressivement utiliser les techniques qui vont fonctionner dans des situations de plus en plus difficiles. Il y a une dernière chose aussi que peut faire Jean, que peuvent faire toutes les personnes qui bégayent, c'est de travailler vraiment sur leur contact visuel. Vous parliez du regard. Plus on va pouvoir s'appuyer sur l'autre, prendre l'interlocuteur comme un partenaire et le regarder dans les yeux, mieux on va pouvoir gérer les blocages qui surviendront.
Alors justement, les yeux dans les yeux, on pourrait croire qu'à l'inverse, plus on se regarde, plus on se met en danger. En fait, c'est l'inverse qui se passe.
Alors, c'est ce qui fait que la plupart des gens qui bégayent, et même le petit enfant, très rapidement a tendance à détourner le regard pour se concentrer sur sa parole, sur lui-même, pour ne pas voir ce qu'il peut lire dans les yeux de l'autre, et, éventuellement. Et le problème, c'est que c'est contre-productif, parce que très vite, détourner les yeux ne suffit plus à ne pas bégayer. Et en plus, on coupe l'échange. Finalement, se regarder la personne permet de se reconcentrer sur ce qu'on est en train de dire et de passer au-delà du blocage bien plus rapidement.
En tout cas, on remercie Jean pour son appel, pour sa question. Très bonne journée à Bujumbura. Ce qu'on voit justement, vous disiez, détourner le regard avec une crainte. Cette crainte, bien sûr, c'est quand on ne surmonte pas ce bégaiement. Cette crainte, c'est l'isolement.
Oui, tout à fait.
Il y a des personnes que, justement, le bégaiement, Caroline Garry-Dutoit, le bégaiement coupe de l'entourage, coupe y compris d'une certaine vie sociale?
Oui, bien sûr. C'est très dépendant des personnes et ce n'est pas toujours corrélé à la sévérité du bégaiement. Certaines personnes bégaient, en tout cas on entend peu leur bégaiement, et pourtant en sont très gênées et peuvent éviter des situations. Et le risque, c'est d'éviter de plus en plus de situations qui font peur, pour finir par quasiment éviter toutes les situations sociales. Ça arrive, oui, malheureusement.
Alors vous êtes orthophoniste, hein. Quels autres praticiens, quels autres thérapeutes peuvent être impliqués dans la prise en charge des personnes concernées par le bégaiement?
Alors là, la prise en charge du bégaiement est avant tout effectivement l'orthophonie. Après, il peut y avoir des thérapies adjuvantes qui vont venir, qui vont aider. Et ça va dépendre de la personne, de ce dont elle a besoin. Si une personne sent que travailler sur la relaxation peut l'aider, pourquoi pas aller voir un sophrologue. Si le bégaiement a entraîné des difficultés psychologiques, une prise en charge psychologique peut aider également. Voilà, tout ça, c'est très dépendant de la personne.
Et du contexte, parce qu'on a compris avec nos auditeurs, aucun n'avait recours à un orthophoniste, peut-être par manque d'information, mais surtout parce que les praticiens manquent terriblement dans certaines régions du monde. Il y a aussi, bien sûr, les capacités financières qui vont conditionner le mode de prise en charge. Alors, justement, quand il n'y a pas d'orthophoniste, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment l'entourage qui va faire la différence ou c'est l'individu lui-même?
Alors, chez les enfants, l'entourage va vraiment avoir un rôle très important à jouer, puisque l'attitude, les réactions que l'entourage va avoir vont vraiment participer à l'évolution de l'enfant. Après, plus l'enfant grandit, plus il peut être lui-même acteur également de son évolution. Les adolescents, les adultes, chez les adolescents et les adultes, l'entourage joue, mais dans une moindre mesure, et ils vont là pouvoir eux-mêmes mettre en place des stratégies. Même seuls, mais effectivement, c'est plus difficile qu'en étant accompagné. Mais
alors,
c'est possible.
Alors, on parle de stratégie. Quand on a la chance de pouvoir consulter un orthophoniste, une orthophoniste, on n'est plus dans la stratégie, on est dans un travail, on est dans une reconstruction. Est-ce qu'il y a des méthodes éprouvées ou est-ce qu'à chaque fois, le protocole, le mode d'intervention va être décidé en fonction de la personne?
Alors, les deux. Il existe des programmes, des méthodes bien cadrées, mais évidemment, on va choisir ce qui nous semble le plus adapté pour la personne qu'on a en face et adapter chaque prise en charge. Finalement, chaque suivi est construit sur mesure en fonction du type de bégaiement de la personne, de ses envies, de ses souhaits, de ce qui compte le plus pour elle et des situations où elle est le plus en difficulté.
Je sens que la question va être qu'il n'y a pas de réponse, mais j'essaye quand même. Est-ce qu'il y a un temps moyen pour se débarrasser d'un bégaiement, on va dire, pour un enfant qui serait dans un niveau de primaire, vers 7 à 10 ans, est-ce que cette prise en charge va prendre, là c'est vague ce que je vous demande, en termes de semaines, de mois ou d'années?
C'est très variable. En termes de semaines, en général, non, plutôt en termes de mois ou d'années, mais c'est très variable selon les gens, et effectivement, je ne peux pas vous répondre à cette question. Ce qu'on sait, c'est que plus on intervient précocement, plus on évite le développement d'attitude en réaction au bégaiement et plus la prise en charge sera courte.
C'est ça vraiment le message à faire passer. On va partir tout de suite pour le Cameroun.
RFI.
Où on vous retrouve, Claire Nkwebezina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste, vous exercez à Yaoundé. On a parlé du contexte, on a vu tout à l'heure avec nos auditeurs eh bien, qu'ils n'avaient tout simplement pas recours aux orthophonistes. Est-ce que justement votre spécialité, c'est quelque chose de connu aujourd'hui au Cameroun?
Alors, la spécialité d'orthophonie est de plus en plus connue au Cameroun. C'est vrai, il y a quelques années, enfin il y a 20 ans, quand j'ai commencé à exercer, je faisais beaucoup de l'intervention précoce dans les écoles maternelles. Alors j'allais expliquer aux institutrices ce que c'était l'orthophonie, parce que beaucoup ne savaient pas ce que c'était l'orthophonie. Je leur expliquais l'intérêt de l'intervention précoce chez les enfants en maternelle. Et c'est par ce biais que beaucoup d'enfants sont venus en consultation chez moi.
Et est-ce que vous avez des données justement sur la fréquence de ce trouble au sein de la population? Au sein des enfants, on l'a bien compris, Claire Nkwebezina, ou est-ce que plutôt c'est en fonction de vos consultations que vous vous êtes fait, on va dire, sur le tas, une idée?
Des données précises, c'est vraiment difficile parce qu'on n'a pas de données précises. C'est vrai que c'est sur le tas que je me suis fait à peu près des estimations, on va dire. Mais j'avoue que le bégaiement, c'est pas un trouble qui est prioritaire. Je veux dire, j'ai pas beaucoup de personnes qui souffrent de bégaiement qui viennent à ma consultation. C'est vrai que maintenant, avec l'avènement d'Internet, il y a beaucoup de parents, quand l'enfant a des problèmes, soit ils s'adressent au médecin pédiatre, soit au médecin traitant, qui les réfère à l'orthophoniste, soit ils vont sur Internet essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les cas de troubles de bégaiement, et se retrouvent à ma consultation. Donc, c'est un peu difficile d'évaluer en termes de proportion de données.
Alors, est-ce que pour vous aussi, hein, l'une des clés de la réussite, c'est la précocité de la prise en charge dont on parlait tout à l'heure avec Caroline Garry-Dutoit?
La précocité ne fait aucun doute. Moi, généralement, quand j'ai des enfants qui viennent en consultation, c'est vrai, je ne les prends pas en charge tout de suite. J'essaie pendant mon anamnèse d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que souvent, ce sont des enfants qui ont commencer à bégayer, qui viennent de commencer à bégayer, les parents viennent, ils me disent, bon, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois que le bégaiement dure, on ne sait pas quoi faire. Ce sont des enfants qui ont appris à parler sans bégayer. Et souvent, les causes sont psycho-affectives. Donc, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Généralement, c'est dû à des changements de toutes sortes dans la vie de l'enfant. J'essaye de comprendre aussi au niveau de l'école. Et je donne des conseils aux parents pour les attitudes à avoir à la maison. Et 3 fois sur 4, les parents ne reviennent pas parce que après tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite proportion qui revient. Et dans ces cas-là, en général, ça passe assez vite. Il y a très peu d'enfants qui restent avec le bégaiement quand c'est pris très tôt.
Et tout à l'heure, on a eu un témoignage assez édifiant hein, de Boubou, un auditeur qui nous parlait de ces châtiments corporels infligés à des enfants affectés par le bégaiement. C'est quelque chose que vous entendez, vous aussi, en consultation? Vous mettez en garde, justement, les parents contre ce genre de réponse absolument inappropriée?
Je mets surtout en garde les parents par rapport à leurs attitudes, par rapport au bégaiement, parce que beaucoup de parents me disent, bon, ils ne savent pas comment faire, ils reprennent l'enfant, ils peuvent gronder l'enfant. À l'école, les maîtresses mettent les enfants en avant. Donc ça aussi, j'essaie de voir aussi avec les institutrices sur les attitudes à avoir. Mais par rapport au châtiment corporel, j'avoue que je n'ai pas eu de retour en ce qui concerne les châtiments corporels.
Et du côté des fausses croyances, Claire Nkwebezina, est-ce que vous constatez à Yaoundé qu'il y a un certain nombre d'idées erronées qui circulent au sujet du bégaiement, parfois même une explication d'ordre mystique?
Ah, vous savez, en Afrique, ce sont des idées préconçues qui existent. Mmh. Alors, il y a certaines personnes qui me disent que, bon, voilà, c'est à cause d'eux. Il y a souvent des causes mystiques qui sont mises en avant. Il y a aussi certaines personnes qui viennent, qui ont pris des traitements traditionnels et qui me disent, bon, on a essayé le traitement traditionnel, ça n'a pas marché. Parce qu'on est un peu déconcerté par le trouble.
Et en tout cas, le message que vous faites passer, c'est bien là encore que l'entourage et l'environnement, on l'a vu tout à l'heure, vous avez cité le cadre scolaire comme les parents, cet environnement joue un rôle très important pour comprendre et pour aider à améliorer la situation.
L'environnement, c'est une clé très très importante dans ce trouble. C'est vrai qu'on en parle beaucoup avec les parents et bon, les jeunes adultes qui viennent aussi, j'essaye de beaucoup parler de ça avec eux parce que du côté des jeunes adultes, il faut beaucoup d'implication personnelle, il faut beaucoup de persévérance et il faut de la patience. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent au bout de 2-3 mois, quand il n'y a pas de résultat, entre guillemets, ils ne reviennent plus. Les gens sont impatients et je leur dis non, pour les adultes, autant pour les enfants, quand c'est pris très tôt, on arrive à vite enrayer le trouble, autant pour les adultes, il faut compter au moins, mais vraiment un minimum d'un an à 2 ans de prise en charge. Hein. Il y a dans mon expérience, j'ai juste un seul jeune qui, au bout de 3 mois, j'ai jamais plus eu de jeune adulte. Avec cette volonté qui s'est sortie du trouble au bout de 3 mois, mais on a continué jusqu'à la fin de l'année scolaire pour qu'il soit à l'aise, qu'il ait plus confiance en lui. Mais chez les adultes, ils sont souvent impatients. Au bout de 2 mois, ils vous disent oui, mais ça va pas. Je leur dis mais même à la maison, vous devez travailler. Les adultes, je leur donne des petits travaux à faire à la maison parce qu'il faut qu'au quotidien, ils s'entraînent, comme on disait tout à l'heure dans l'émission.
Avec des exercices, avec justement un travail qui continue après la consultation. On vous remercie beaucoup, hein, Claire Nkwebezina. Je rappelle que vous êtes orthophoniste au Cameroun.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Et on arrive à la fin de notre échange, Caroline Gary Dutoit, avec toujours hein, ce même mot que je vais répéter, une prise en charge le plus tôt possible. On l'a encore entendu, plus c'est pris en charge tard, plus le travail risque d'être long.
Oui, c'est ça.
Et c'est quelque chose que vous constatez aussi.
Oui, tout à fait.
Par exemple, avec des adultes, ça peut s'étendre, comme on vient de l'entendre avec votre consoeur au Cameroun, ça peut s'étendre sur plusieurs mois.
Oui, après, tout dépend... Tout dépend des objectifs des adultes et de leurs besoins, de leur bégaiement et de jusqu'où ils ont envie d'aller.
Une prise en charge donc précoce et bien adaptée à chaque individu. On vous remercie beaucoup, hein, Caroline Gary Dutoit, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes orthophoniste à Houille, en région parisienne.
Priorité santé sur RFI.
Expérience de soins, qualité des soins, amélioration de la santé des femmes, des mères, des jeunes enfants. Thématique au centre du premier forum consacré à l'expérience des soins qui se tient jusqu'à demain à Dakar au Sénégal. Parmi les intervenants, on vous retrouve, docteur Jean-Paul Dossou, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Vous êtes chercheur au Centre de recherche en reproduction humaine et démographie à Cotonou au Bénin. Docteur Dossou, on va essayer d'être le plus concret possible avec des exemples. Rendez-vous donc à Dakar de spécialistes pour parler des moyens pour améliorer la façon dont les femmes sont accueillies et prises en charge dans les établissements de santé, parce que ces conditions, eh bien, elles peuvent avoir une influence directe sur la santé des femmes, sur la santé des mères et sur la santé et même la vie des enfants.
Oui, bien entendu. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. L'expérience de soins n'est pas négative pour tout le monde. Ça, il faut commencer par le dire. Mais dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent le séjour en milieu de soins comme un calvaire. Je me rappelle de l'exemple précis d'une dame qui, à la sortie de l'hôpital avec son bébé, disait « Ouf, je suis content, je suis sortie de leur griffe ».
Alors, docteur Jean-Paul Dessous, faut pas caricaturer, mais en même temps, y compris dans le milieu de la recherche, y compris chez les soignants, il y a donc ces témoignages qui font état, dans certains cas, et vous le soulignez, d'une certaine violence ressentie dans les établissements de santé.
Oui, c'est ça. Il y a une étude récente de l'Organisation mondiale de la santé qui a essayé de mesurer le phénomène. Ce n'est pas facile à faire. Mais on a retrouvé que dans près de 40% des pays, des cas, pendant la période de l'accouchement, les femmes expérimentent au moins une forme de violence verbale, de violence physique ou une forme de discrimination ou de stigmatisation.
Alors il y a le constat et puis il y a les pistes hein, pour améliorer bien sûr la situation. Ce n'est pas simplement critiquer les propositions, docteur Jean-Paul Dossou. Sur quel levier agir ? D'abord la formation ?
Au-delà de la formation, il faut comprendre que cette violence émerge d'une différence de pouvoir. Cette différence de pouvoir, on peut l'appeler aussi une différence de capital entre le soignant qui se trouve à tort ou à raison dans une position de personne très forte, dans une relation très déséquilibrée avec un soigné qui, dans nos milieux, se trouve en une position de vulnérabilité vraiment très importante. Et c'est de ce gradient de différence qu'émerge, et c'est sur ça que naît et grandit la violence. Mais pour travailler sur ce phénomène, oui, il faut essayer de contrebalancer cela et mieux équilibrer la relation entre les soignants et les soignés. La formation peut aider, mais il faut surtout des interventions qui ciblent les usagers et qui leur donnent plus de pouvoir dans la relation de soins.
Cela veut dire qu'ils reprennent leur pouvoir, qu'ils posent des questions et puis aussi qu'ils posent des limites.
Il faut d'abord aussi leur donner plus de valeur symbolique. Structurellement, dans nos pays, c'est quoi la femme ? C'est quoi la femme enceinte ? Quel est le pouvoir qu'elle a ? Structurellement, quel pouvoir est-ce qu'on lui confère ? Lorsqu'on lui dit par exemple qu'elle doit payer 5000 francs avant d'accoucher, et qu'elle n'a pas 5000 francs, et qu'elle peut mourir à cause de ça, on voit à quel point elle-même, elle se dit, peut-être que je ne vaux pas autant pour être à la hauteur de ces personnes qui sont en face de moi. Donc c'est déjà dans l'ensemble, de façon structurelle, qu'il faut construire une valeur symbolique plus forte pour les usagers et pour les femmes en particulier. Et en plus de ça, maintenant, il faut, pas de l'éducation classique, mais vraiment augmenter le capital culturel, le niveau d'information des femmes sur leurs droits, pour que dans l'environnement de soins, elles ne soient plus vraiment dans des positions de personnes naïves, vulnérables,
et dominées.
Et dominées.
Merci beaucoup, on a bien compris le message. Merci docteur Jean-Paul Dossou. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie à Cotonou, au Bénin. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussa Maquet, Ophélie Lassen, Didier Bleu et avec nous aujourd'hui Laurence Nau. Demain, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée à l'impact des produits chimiques sur la santé. Produits du quotidien, cosmétiques, produits d'entretien. Quel risque, quelle alternative ? On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.